Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Popcorn Salé, l'épisode 20 de la saison 15. Je suis Costal et je suis ce soir en petit comité avec Juliette.
Bonsoir.
Arthur.
Bonsoir.
Et Thaïs.
Bonsoir.
Ce soir, nous parlerons donc de trois films. L'errance d'Isabelle Huppert dans Sidonie au Japon. Le premier film d'Ethan Coen sans Joël intitulé Drive Away Dolls. Et le film turc Yurt.
Donc,
effectivement, rien à voir avec la petite tente du camping municipal d'Avignon, mais bel et bien les sectes islamistes.
Wow.
Mais nous commençons tout d'abord avec un sujet d'actualité, avec du coup la plateforme VOD Pathé Home, qui est censée être lancée dans les prochaines semaines, et qui est donc une plateforme d'offres, de vente et de location de films, avec plus de 3000 films proposés pour son lancement. Donc blockbuster, films d'auteur, tout ce qu'on veut, quoi, pour nous faire plaisir. Et donc ils pourront diffuser des films seulement 3 mois après leur sortie en salle. Donc ce qui affirme la présence des exploitants de salles dans le marché de la VOD après le lancement de MK2 Curiosity pendant le confinement, il me semble. À l'heure où le temps pour les exploitants, la situation n'est pas toujours rose, comme le montrent par exemple les derniers chiffres de fréquentation du printemps du cinéma qui étaient particulièrement bas puisqu'ils ont atteint leur plus faible niveau depuis la création des printemps du cinéma. Qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table ?
Étant donné que je ne cherche pas un stage chez Pathé, je pense que je peux parler en,
en toute liberté,
en toute liberté de ton. Je ne comprends pas ce choix de Pathé. De faire une plateforme. Non, mais
vous
voilà
êtes
le
nul.
Débat que vous êtes nul. Non, mais.
En plus, vous avez produit Obélix.
Non, mais oui.
Pourquoi je dis Obélix et pas Astérix?
Non, mais c'est vrai que Pathé, ils sont...
Excusez-moi, si on commence à citer tous les films de Pathé qu'on a aimés, la liste va être bon.
Bah, en tout cas, les dernières grosses productions de Pathé ont été des échecs, donc ils se sont merdés là-dessus. Leur cinéma, ils sont partis à fond dans une ambition de faire un cinéma comme... Enfin, la salle de cinéma comme un produit de luxe. On voit que ça se pète la gueule, ça marche pas. Et maintenant, ils se disent, tiens, on va faire une plateforme de VOD. Alors, VOD, ça n'a pas à confondre avec Netflix... Parce que Netflix, vous payez un abonnement, vous avez tous les films entre guillemets gratuitement une fois que vous avez payé cet abonnement-là. Là, comme tu as bien dit, Kossal, c'est on doit payer la location de chaque film que l'on veut regarder. Un peu comme on faisait, moi, on faisait ça, moi, dans ma famille, il y a 10 ans, quand on était sur Freebox, et Freebox nous permettait de louer les films, en fait. Ça revient à un modèle qui est assez ancien, et en plus, Pathé, alors, l'achat en ligne, à la demande, il est la même, enfin, c'est dans la même période de temps que le DVD Blu-ray.
Okay.
C'est dans la chronologie
des
médias.
Ah oui, c'est pas par abonnement.
C'est pas par abonnement, en fait. Donc du coup, t'as un truc hyper bizarre où ils vont se placer sur un créneau où vous avez déjà Amazon qui le fait, iTunes qui le fait, toutes les box qui le font. Donc il y a un truc hyper bizarre où ils se placent sur un créneau qui est pas très demandé, qui a pas vraiment fait ses preuves, hormis sur quelques exclus que pouvait être pendant le confinement la Snyder Cut des événements faits pour la VOD, mais ils se placeront sur un créneau où il n'y a pas d'intérêt, et en plus il n'y a même pas un aspect d'éditorialisation comme pourrait l'avoir, je pense, à MK2 Curiosity, qui certes fait un service qu'on pourrait avoir ailleurs, mais qui l'accompagne d'un label MK2. Pathé, si c'est pour nous diffuser Trois Mousquetaires 4 mois après l'avoir vu au Cinoche, je vois pas du tout l'intérêt. Donc ouais, c'est hyper étrange, je trouve, comme move de la part de Pathé.
À la différence que, je crois qu'il y a 8000 films dans le catalogue, ce qui est quand même conséquent. Et est-ce que la niche qu'ils essayent pas de viser...
Je crois que c'est 3000 films. Hein.
Ah ouais, j'ai dit.
Ouais.
3000, c'est déjà beaucoup.
C'est beaucoup, mais je pense que c'est quand même beaucoup moins que toutes les autres offres.
Puis je sais pas dans quelle mesure les films qui sont disponibles sur Pathé, les films qui sont disponibles sur Pathé Home, ils seront pas disponibles sur YouTube où tu peux acheter tes films. Et comme YouTube, ils ont un peu tous les films, ils ont pas d'exclusivité sur leurs films qui vendent.
Peut-être
comme
qu'ils vont garder une exclusivité sur les films produits par Pathé.
Ouais.
Mais sinon, c'est vraiment un truc où. Je me dis, ils vont se faire doubler par Amazon, qui est bien plus puissant,
par
YouTube, qui, oui, c'est vrai que maintenant, ça se boucle vachement sur YouTube, et ouais, les derniers films que j'ai dû louer, ça a dû être sur YouTube. Donc, je vois pas sur quel marché ils essayent de se placer. C'est un gros mystère.
Mais surtout que tu comparais avec MK2 Curiosity, où là, pour le coup, ils sont plus au-delà de cette dimension d'éditorialisation qui est effectivement une des principales, un des principaux atouts des plateformes, on peut dire cinéphiles de vidéos à la demande, parce que on peut penser à aussi la Cinéthèque. Ça combine les deux. En vrai, la Cinéthèque, c'est assez marrant parce que ça combine, t'as des abonnements où du coup t'as pas accès à tous les films de leur catalogue, mais une sélection de 10 films, et du coup ils font leur proposition, enfin leur pub sur leur éditorialisation, et c'est ça qui manque avec les plateformes aussi, parce que Netflix, on voit qu'on peut passer une, deux heures à choisir des films. En vrai, maintenant, ce dont on a besoin pour les plateformes, c'est plus d'éditorialisation que d'accès aux films, parce que les films, en vrai, on y a accès partout, ils sont tous sur YouTube, etc. Donc là, ce qu'ils demandent, c'est de l'éditorialisation. MK2 Curiosity, ils font ça, de l'éditorialisation, mais sous forme, du coup, d'abonnement, du coup, plus sur un modèle Netflix. J'ai pas les chiffres, je sais pas si ça marche, et c'est super pointu, c'est quand même très... pas accessible, on peut se dire MK2 Curiosity, c'est quand même... ils ont une petite offre d'appel de films gratuits, mais j'ai l'impression que c'est quand même vraiment des films très, très perchés... c'est pas... La Cinéthèque, elle a... c'est déjà perché, j'ai l'impression que c'est quand même moins qu'MK2 Curiosity. Bon, bref. Mais du coup, Pathé, c'est vrai que là, leur demande... enfin, leur idée, ça sonne comme un dernier cri à l'aide, quoi. C'est très méchant.
Et
non, Pathé
disparaîtra.
Et puis, effectivement, en fait, il n'y a que 3000 titres. Et rapidement, à titre de comparaison, Netflix... on a 7000 films ou 5000 films et 7000 titres au total, donc c'est très peu conséquent. Donc effectivement, moi je vous rejoins tout à fait sur, mais quelle niche essaye-t-il, si tant est qu'il y ait, que niche il y ait,
bah, avant les propositions d'éditorialisation qu'ils proposent, parce que peut-être qu'effectivement ils vont mettre une sélection du mois, etc. Et ça peut être intéressant, parce que dans les propositions d'éditorialisation plus cinéphiles, comme on l'a vu, du coup là, la Cinéthèque, MK2 Curiosity, en vrai c'est pas des trucs très grand public, c'est même vraiment vraiment perché et pas accessible, alors que les cinéphiles du dimanche, on pourra dire, qui s'intéressent au cinéma sans avoir vu l'intégrale de tout Tarkovsky, peut-être que eux, une sélection un peu éditoriale de la part de Pathé avec un catalogue plus grand public, ça peut aussi plaire, et dans ce cas-là, il y aurait peut-être effectivement une offre, mais je connais pas assez bien le marché pour...
Ouais, après, moi, pour moi, ça, c'est Canal, en fait, qui fait ce boulot-là.
Oui, pas fou.
C'est Canal qui a ce truc-là d'avoir un truc un peu médium, de on fait du gros film, mais en même temps du plus petit, quelques mois après. Alors, Canal, c'est pas 4 mois, ils ont une plus grosse marge, mais c'est quand même... ils sont vraiment avancés par rapport au reste de Netflix et tout ça.
Mmh. Et alors 6 mois.
Ouais, 6 mois, c'est ce qui est vrai. En vrai, c'est 2 mois de plus. Et pour le coup, c'est un abonnement à 25 balles et tu payes et t'as des films, tu vois. Et Pathé, pour moi, c'est très relié à des gens qui vont au cinéma 2 fois dans l'année.
Ouais, mais là, ce sera la même chose sur les plateformes.
Ouais,
du
mais
coup,
du coup, ils sont
justement...
pas sensibles à l'éditorialisation. Tu vois, c'est des gens qui, ont envie de voir un film avant même d'être arrivés sur Pathé machin, ou alors qui vont sur Netflix, tu vois. Moi, je vois vraiment pas qui ils peuvent viser, tu vois.
Bah déjà du coup, comme on sait pas s'ils vont faire de l'éditorialisation ou pas, peut-être qu'il y en aura pas besoin, mais même quelqu'un qui va peu souvent au cinéma et qui a envie de se faire un film sur les plateformes, si c'est pas quoi regarder, s'il a pas envie de payer un abonnement, parce que Canal c'est quand même assez cher, c'est quand même 25€ par mois, si tu regardes 2 films par mois tu vas pas payer Canal. Néanmoins, si t'as envie, tu connais la marque Pathé, elle est facilement identifiable, tu sais que c'est quand même des films un peu grand public, là il y a peut-être effectivement un espace. Je pensais critiquer Pathé, en fait peut-être que leur démarche n'est pas si bête, mais encore une fois, il faudrait aussi une analyse beaucoup plus fine de ce marché-là, quoi.
Bah écoutez, on en reparlera peut-être dans 6 semaines. Non, mais ça sort là, maintenant. Et est-ce que ça fonctionne avec un abonnement? Il faut s'abonner, et puis
non,
par
non,
ailleurs...
Non, tu
parce qu'il y a la question quand même de l'accessibilité, effectivement, avoir la ligne éditoriale. Peut-être qu'il y aura des offres intéressantes, mais bon, c'est aussi une autre plateforme encore. Et c'est je ça. Pense que à voir aussi comment ça sera inséré dans les télévisions, etc. Mais ouais, il y a beaucoup de plateformes en ce moment. On est déjà dépassé par, on sait plus où aller. Donc est-ce qu'elle va pas finalement juste être noyée dans le flux? Je pense que c'est aussi possible, mais on va peut-être leur laisser une chance. Ils l'ont sorti hier, les pauvres.
Et ben on s'arrêtera sur cette note d'espoir pour passer à la sélection. De ce soir, donc on va commencer par Sidonie au Japon.
What's your reason for your trip?
They are republishing my first book.
Are you a writer?
Yes and no. Vous travaillez avec mon éditeur?
Je suis votre éditeur.
Ah! Je le fais mal, c'est ça?
Du coup, Sidonie au Japon est un film réalisé par Élise Girard, qui nous raconte l'histoire de Sidonie, interprétée par Isabelle Huppert, qui se rend au Japon à l'occasion de la réédition de son best-seller qu'elle avait sorti il y a plus d'une trentaine d'années. Et elle découvre ainsi le Japon, pays qu'elle ne connaît pas, et pourtant elle y rencontre petit à petit son passé, qui ressurgit à divers endroits. Costal, qu'en as-tu pensé ?
Qu'en ai-je pensé ? Bah alors, j'ai beaucoup aimé ce film. Je vais peut-être commencer par le récit en tant que tel, parce que je pense que c'est ce qui peut rebuter certaines personnes, de voir que c'est un récit qui, au final, propose pas forcément une réflexion très très originale ou une histoire qui sort du commun. Ça fait beaucoup penser à Lost in Translation, et je pense que les points communs sont nombreux dans ce côté de solitude qui se rencontre, dont une protagoniste principale qui connaît pas du tout le pays dans lequel elle tombe, le Japon. Donc c'est un récit donc de reconstruction, effectivement, de deuil, d'amour. Et le scénario est très épuré parce qu'il est vraiment réduit à ses caractéristiques presque essentielles. Il y a un personnage, on sait tout ce qu'il faut savoir sur son passé, mais pas trop. Le personnage qu'elle rencontre au Japon, on sait pratiquement rien de lui, juste ce qu'il faut, pareil. Il se passe pas grand-chose pendant le film. Juste, voilà, on voit ces deux personnages évoluer, en particulier, du coup, la protagoniste principale qui se retrouve dans un pays qui lui est totalement étranger et dont où les coutumes lui échappent totalement. Et donc, je pense que c'est un récit assez banal, mais pas forcément dans son aspect négatif, parce que un récit banal, je pense que ça peut être aussi très universel et du coup très touchant. Et là, je pense que l'originalité est ailleurs que dans le récit, vraiment, dans le côté synopsis. C'est vraiment dans le mélange des tons avec lequel est écrit le scénario. Puisque Élie Girard, qui a collaboré notamment avec Sophie Filière, qui est peut-être à l'origine de ce mélange de tons, fait régulièrement changer le ton des dialogues et même juste des plans, puisqu'il y a des plans très contemplatifs qui peuvent devenir tout d'un coup drôles par un aspect qu'on n'avait pas vu venir et qui est assez surprenant, où il y a des dialogues qui peuvent paraître un peu mornes et très sérieux et qui peuvent devenir aussi tout d'un coup un peu burlesques sans forcément qu'on l'attende. Et du coup, je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez original dans le film et qui fonctionne vraiment bien. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur ça.
Moi, je te rejoins pas mal. C'était un film qui, au début, me donnait pas vraiment envie. J'y allais avec un a priori négatif, surtout que... alors, Enora n'est pas là, mais moi, j'avoue que je n'aime pas Lost in Translation, et elle l'avait vendu
en vrai, moi non plus, pas trop. C'est pour ça que j'avais un peu peur aussi.
Moi non plus.
Moi non plus. Le Hate Club.
Merde, Enora revient.
Mais du coup, elle l'avait vendu sur Letterboxd comme un Lost in Translation à la française, et pour le coup, je trouve
Un mauvais Lost in Translation, elle m'a quand même...
Ah, elle a pas aimé, du coup.
Elle a pas aimé tant que
la
ça.
La voix d'Enora résonne quand même, si elle a pas pu venir.
Mais...
Bisous si tu écoutes ça.
Et du coup, Paul pense que...
Mon voisin a perdu.
Moi, j'aimerais faire comme les youtubeuses beauté quand je regardais des youtubeuses beauté. Si tu passes par là, on te fait des bisous. Voilà.
Voilà, Enora, si tu passes par là.
C'est le micro-trottoir sans le trottoir. Quoi.
vraiment... Allez, je prends sa voix.
Mais bref, Et je trouve pour le coup que c'est pas tant que ça un Lost in Translation à la française, parce que c'est pas tant de solitude dont on va parler que surtout une seule, celle d'Isabelle Huppert et de la relation qu'elle a avec un défunt. Je pense que c'est pas un spoil de dire qu'elle a perdu son mari et que tout va se jouer sur la relation qu'elle tisse en fait avec son mari une fois que celui-ci est décédé. Et moi, c'est un film.
La relation qu'elle tisse avec son mari quand il est décédé. Ok.
Bah après, en vrai, tu peux...
Oui, en fait, le truc, c'est que... Je spoil, mais l'intérêt du film n'est pas trop tant dans le déroulé de son scénario. En fait, son mari lui revient en fantôme, toi qui es au Japon.
Ok. Et l'éditeur qu'on voit dans la bande-annonce, c'est
son
mari?
Non, c'est pas l'éditeur.
Ah,
okay. C'est un...
L'éditeur, c'est l'éditeur.
Concept, on retourne au concept de maintenant, on discute des films à partir de leur bande-annonce. Popcorn part en couille.
Et du coup, à partir de... J'en sais plus où j'en étais.
La relation avec son mari.
Qui c'est son mari qui était mort.
Merci d'avoir tiqué parce qu'effectivement, je pense que
c'était pas super clair. Ouais. Oui. Et
après, c'est en mode. Son mari qui.
On recommence la phrase parce que je pense que.
Ouais, c'est ça. Avec du coup. Et on s'intéresse du coup au fait au lien que le personnage d'Isabelle Huppert tisse avec son mari une fois que celui-ci est décédé, puisqu'il revient sous la forme d'un fantôme quand elle est au Japon. C'est un film qui, moi, m'a au début mis de côté sur son écriture. Je trouve que les dialogues, c'est des dialogues que j'aurais. C'est hyper bizarre de dire ça, que j'aurais adoré lire mais qui, je trouve, en film passe pas. C'est des très littéraires. On a l'impression qu'il récite un texte la plupart du temps, ce qui, je pense, est voulu. Tout est joué dans une très grande intériorité. Et moi, c'est un jeu que j'aime pas du tout, mais dont je peux comprendre l'intérêt. Et c'est vraiment, je me suis vraiment fait la réflexion, j'aurais adoré lire, en fait, ce film-là. Et surtout que la réalisation peut aussi me mettre de côté, je trouve, surtout au début. Elle est très plan-plan. Il manque, je trouve, une certaine inventivité, une certaine beauté dans les plans. Et petit à petit, finalement, on va réussir à se laisser prendre dans cette ambiance, notamment un des plans que j'ai trouvé magnifique et qui, t'as raison, en fait, Costal, qui mélange un côté très mélancolique et à la fois beaucoup d'humour. À un moment, il y a Isabelle Huppert qui se balade dans les rues de Tokyo parce que elle est, ou de Kyoto, elle a été effrayée par quelque chose dans la chambre. Et elle sort, elle se plante de chaussures, et du coup, elle a des chaussures qui sont avec des lumières sous le talon et tout ça, et du coup, vous la voyez se balader dans Tokyo avec des chaussures à lumière, ce qui fait que les plans sont très beaux, très mélancoliques, et en même temps, c'est drôle parce qu'Isabelle Huppert, vous la repérez juste parce qu'il y a ces godasses qui brillent, en fait. Donc, il y a des mélanges de plans, des petites trouvailles qui sont hyper marrantes. Je sais pas si c'est un premier film, mais à des moments, ça m'a fait penser à un premier film parce qu'il y a des plans qui, à des moments, sont, je trouve, très fins, et d'autres qui sont, complètement surexagéré. Il y a un plan à la fin de, je sans dévoiler ce qui se passe, de rêve avec deux personnages qui s'embrassent sous un fond de avec un fond vert de fleurs et tout ça, que je trouve hyper kitsch et pour le coup qui était suramené, qui sursoulignait des choses qui étaient déjà vues. Et pourtant d'autres plans sont hyper fins, hyper souples, hyper intéressants à voir. C'est un film qui mélange des tons d'une manière assez étonnante. Et si on se laisse se prendre, je pense, si on laisse passer la première demi-heure qui est assez poussive, on trouve un film qui est d'une subtilité assez folle, et moi qui m'a vraiment transporté, et j'ai vraiment été ému par l'histoire d'Isabelle Huppert.
Oui, bah du coup, je suis assez d'accord avec toi sur ce côté décalage, peut-être, surtout quand tu parlais du coup des acteurs, comment ils avaient, quand ils donnaient l'impression de réciter un peu leur texte. C'est vrai que je pense dans ce film, il y a beaucoup de choses qui reposent vraiment sur le décalage, peut-être aussi pour retranscrire le fait qu'elle est décalée avec la culture japonaise. Bon, c'est pas hyper subtil peut-être comme analyse, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de décalage, donc à la fois dans les tons, dans les plans, comme t'as dit. Et moi, je trouvais que la direction, la réalisation était vraiment très belle, c'est vrai. Mais j'ai pas trouvé ça si kitsch que ça, l'utilisation des fonds verts. Je trouve que justement, c'est ce qui permettait aussi d'amener au film une certaine légèreté, ouais, qui participait au fait de traiter le sujet quand même très lourd du deuil, machin, avec justement toute cette légèreté qui caractérise vraiment le film pour le coup et qui caractérise aussi le scénario. Parce que par exemple, dans la voiture, il y a juste un plan fixe de eux deux qui sont à l'arrière de la voiture et qui parlent. Souvent, ils parlent de choses quand même très dures parce que c'est là un peu que les langues se délient, quoi. Et l'extérieur est filmé clairement en fond vert et donc du coup, elle s'amuse un peu à zoomer certaines parties du paysage ou à faire des effets un peu marrants, quoi, sur les cerisiers en fleurs, etc. Et du coup, ça apporte un aspect très flottant au film, qui est vraiment très joli. Et je trouve qu'aussi le fantôme du mari, quand il se matérialise dans la pièce, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est pas du tout réaliste. Enfin, c'est très graphique comme plan puisqu'il arrive, c'est un rajout, en fait. Enfin, il y a cette même technique du fond vert. Et la photographie est très très différente quand on voit ce qui est filmé en vrai et lui comment il est filmé en tant que rajout, parce que lui c'est une lumière qui est très très crue, ouais, et du coup on voit toutes ses aspérités, c'est très détaillé,
oui, il y a pas d'ombre partout,
oui, vraiment on le voit comme si c'était une photo, ouais, vraiment ça, ouais, de magazine, alors que la photographie, qui est d'ailleurs très belle, du film en général, elle est beaucoup plus évanescente, elle est un peu grainée, elle est un peu floue, comme si en fait le fantôme était plus réel que la réalité qui était filmée. Enfin bref, du coup, non, mais je trouvais ça plutôt joli comme plan à chaque fois qu'il apparaissait. Et tout ce qui pouvait paraître comme très étrange ou morne, ou enfin, que les films parfois exploitent ça comme étant un truc bizarre ou glauque ou machin, bah ici c'était toujours traité avec beaucoup de légèreté et ouais, c'était très apaisant comme film au final.
Ouais, t'as un truc de. Alors au début, je me suis dit, putain, ils ont vraiment pas eu de budget, ils ont filmé Charles de Gaulle, il y a trois pecnos qui se battent dans l'aéroport, c'est vraiment bizarre. Et en fait, ils travaillent, mais finalement, elles travaillent. La réalisatrice, je sais pas si c'est parce qu'elle n'avait pas les moyens d'avoir plus de figurants ou si c'est un choix volontaire, mais en tout cas, elle sait très bien travailler la grandeur des espaces vides qui s'offrent aux personnages, et notamment toutes ces scènes au début d'aéroport qui sont complètement vides, les premières scènes dans la ville aussi, en fait, elle est toute seule dans la ville, elle a réussi à faire en sorte d'avoir des grandes perspectives avec personne dedans et juste Isabelle Huppert qui peut se balader parfois avec son éditeur. et un travail du son qui accompagne ça assez fou en fait, parce qu'on a un son qui est hyper sourd pendant tout le film où on n'a quasiment aucun bruit de fond, où les personnages sont hyper, enfin où les scènes sont toujours hyper silencieuses avec simplement les personnages qui parlent et interrompues à de rares instants par la ville, le bruit de la ville qui d'un coup revient très fort, et à un moment où Isabelle Huppert a besoin de décrocher justement du deuil et décide de repartir dans la ville et se balader, et là d'un coup on a un tourbillon de sons, de lumières assez fou et qui donne une vraie essence au film hyper intéressante, et je trouve qu'elle arrive assez bien à jouer avec des codes qui pourraient être hyper vus et revus des films de deuil, et avoir une mise en scène qui arrive à être hyper inventive avec très peu de moyens et très peu d'artifices en fait.
Oui, c'est vrai, en fait tout ce qui paraît pouvoir être vu et revu dans le film, enfin des trucs où tu te dis c'est tellement cliché que comment tu peux toujours faire ce film là, ce sujet là avec cette réflexion qui est quand même un peu convenue aussi, enfin bon, ça va pas nous apprendre des trucs sur l'amour et le deuil hein, ce film, c'est sûr. Bah au final elle arrive à le détourner pour faire quelque chose d'extrêmement lyrique et poétique et qui mélange vraiment plein de choses à la fois, et au final tu te surprends à juste te balader avec Isabelle Huppert quoi. En fait c'est ça ce film, c'est juste une balade avec Isabelle Huppert, et au final bah oui du coup Isabelle Huppert est quand même de tous les plans, et c'est assez marrant parce que je suis pas un énorme fan, genre je trouve que bon Isabelle Huppert comme toutes les grosses stars, quand tu vois un film avec Isabelle Huppert tu vois Isabelle Huppert, mais là dans ce film c'était assez marrant parce qu'elle je pense qu'elle aime bien aussi les films où elle se met un peu en danger etc, et je trouve que c'est une facette un peu d'Isabelle Huppert qu'on voit pas forcément, enfin Isabelle Huppert qui te fait rire ou qui est tournée un peu en ridicule, c'est
ou
pas forcément quelque chose de
avec des chaussures qui brillent, du coup
avec des chaussures qui brillent, en vrai c'est assez marrant, enfin je trouve que le film réussit un truc aussi à ce niveau là quoi.
Vous m'avez donné envie de le voir franchement.
Bah, dommage que Nora soit pas là pour détester le truc.
Évanescent. D'ailleurs Juliette s'est ouvertement foutue ta gueule.
Non,
c'est un truc que Juliette elle avait genre.
Non, c'est pas vrai.
Ce n'est pas le but de Popcorn Juliette. Par ailleurs, on parlait de Godzilla tout à l'heure. Et quand t'as dit ils ont filmé Charles de Gaulle, j'étais en mode attends, quoi, il y a Charles de Gaulle dans le film.
Oui, c'est vrai que moi j'ai loupé
vraiment
la
ratée. Moi j'ai fermé un œil un moment. Et en fait, son mari c'était Charles de Gaulle.
Wow. Il revient en fantôme, c'est hallucinant. Trop bien fait.
Bah, encore une fois, je pense que ça m'aurait donné. Plus envie de voir.
Ah là là, bon. Si, contrairement à Thaïs, ce film vous a donné envie de vous offrir une petite escapade japonaise, allez le voir. Je pense que c'est quand même à conseiller finalement. Et on va passer au deuxième film, peut-être un petit peu moins à conseiller, on verra.
On verra.
Donc, qui est présenté par Juliette.
Not on your life.
So we are gonna salt you up.
I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian.
You're not wearing that.
I just came from work.
I came from Toledo. I don't dress like it.
I'm not here to peddle my wares.
Oui, donc ce film, c'est Drive Away Dolls. C'est le dernier film de Ethan Coen, qui est donc privé de son frère, puisque Ethan Coen, on le connaît pour son duo avec son frère, les frères Coen, qui a fait moult de films. Au Brother me vient en tête, là, comme ça. Donc des comédies, principalement, mais pas que. Et donc là, il revient avec ce film qu'il réalise tout seul, mais qu'il co-scénarise avec sa compagne, il me semble, Tricia Cook. Et donc, dans ce film, on va suivre un duo plutôt déjanté, composé par deux femmes, Jamie et Marianne, qui sont lesbiennes, et le film nous le fait bien comprendre, mais on y reviendra après, qui font un road trip jusqu'à Tallahassee, parce qu'il y en a une qui s'est fait larguer, et l'autre, on sait pas très bien pourquoi, mais elle veut aller à Tallahassee, une petite ville des États-Unis. Je ne vous dirai pas l'état. Et en fait, ce road trip va se compliquer parce que elles vont croiser la route d'une bande de truands, globalement. Je ne vais pas faire plus compliqué. Et je vais tout de suite demander à Arthur ce qu'il en a pensé. Sachez que, comme vous ne voyez pas, chers auditeurs, mais il est déjà en train de mettre ses doigts sur le début de son nez, comme quand on est vraiment saoulé. C'était une très mauvaise description d'un corps. Mais bon, bref.
Du coup, je retiens mes doigts de là où ils sont. C'est un film, oui, enfin, je suis hyper déçu parce que j'aime pas mal le cinéma des frères Coen, même si je me rends compte que finalement je connais que le milieu de leur cinématographie qui s'étale, on va dire, du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, que j'ai rien vu de très récent d'eux, et puis bah là ça m'a pas donné trop envie de rattraper ce qu'ils ont fait. Les frères Coen, c'est des cinéastes qui, enfin, du coup, dont fait partie un des de la fratrie Coen, sont des cinéastes qui savent très bien jouer avec le kitsch habituellement. C'est une mise en scène hyper tape à l'œil, avec des effets toujours très grotesques, mais qui font partie de leur humour. Et d'habitude, ils sont très très bon pour le faire, et c'est d'ailleurs l'un des rares duos, et un des rares duos de réalisateurs va savoir faire ça aussi bien. Et alors là, par contre, c'est catastrophique. C'est-à-dire que tous les effets de mise en scène que les frères Cohen ont, bah là, Ethan le récupère. Et du coup, ils sont grotesques, parce qu'ils sont accompagnés d'aucune dimension comique. Moi, j'ai entendu des critiques dire, mais faut voir le film au millième degré, mais ah putain, même au millième degré, y a rien qui marche, tout tombe à plat, les blagues sont poussives, hyper crues, bêtes, méchantes, inutiles. La caractérisation des personnages, elle est aux fraises. Enfin, je veux dire, c'est... Je sais pas, je m'y connais pas tellement dans le cinéma comment ils filment les lesbiennes, mais moi j'ai l'impression que c'est une manière qu'on avait de filmer les lesbiennes qui date des années 90-2000, quoi. C'est du niveau de Bound de Sœur Wachowski, et c'était il y a 25 ans. C'est vraiment un film qui est idiot au possible, qui est pas drôle, qui est vraiment mal réalisé, qui a des plans vraiment... vraiment moche, et encore une fois tout ça, ça peut faire partie de l'esthétique habituelle des frères Cohen, sauf que là, elle est accompagnée d'aucune dimension qui pourrait avoir un sens au-dessus de ça, et c'est juste un film chiant, et je me suis vraiment emmerdé pendant tout le film. Je n'ai aucune idée de ce que le réalisateur et sa femme ont voulu me dire à travers ce film.
Mais je te rejoins complètement, ouais, j'avais vraiment très envie de voir le film, d'autant que la bande-annonce m'avait plutôt plu, et le film est en fait super mal mis en avant. Typiquement sur Allociné, il arrive 5 ou 6e dans les sorties de la semaine, je crois même après Sidonie au Japon. Enfin, alors qu'on est quand même sur un film qui est distribué par Universal, des frères Cohen, enfin avec Margaret Qualley à l'affiche, et Matt Damon aussi, enfin qui apparaît 10 minutes, mais style Matt Damon. Et en fait, je comprends pourquoi les distributeurs ont voulu le cacher, quoi. Parce que c'est un peu ça qui s'est passé, de ce que j'ai l'impression, c'est que. Bah. Le film dure quoi ? 1h30 ? 1h40 je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. Et il réussit à être long.
Trop longtemps pour Arthur, mais non, mais... qui maintenant a mis tous ses doigts,
sur son visage.
Vous savez, comme quand en fait...
La rancœur me ronge.
En fait, on va passer à une émission de description corporelle uniquement.
C'est l'émission ma télé sur ma télé, quoi.
On a en audio description maintenant, un popcorn en audio description.
Bref, le film dure à peine 1h30, 1h40, et c'est vraiment extrêmement long, c'est poussif. Tu l'as dit, Arthur, les personnages sont très mal caractérisés, et du coup, ça fait que le jeu est tellement mauvais, mais... C'est... Le personnage joué par Margaret Qualley, au-delà du fait qu'elle est caractérisée juste uniquement vraiment parce qu'elle est lesbienne et elle aime le sexe. Voilà, c'est vraiment deux traits de caractère. Elle n'en a pas d'autres. Et ah oui, et elle a, ah, si, elle vient du Texas et elle a un accent texan qui est
du Texas.
Texas.
Ça fait plaisir à tous les Texans.
Non, mais elle fait un accent texan très très caricatural que, enfin, j'ai trouvé faux au possible, et du coup son jeu est vide. Elle n'a rien à jouer parce que son personnage en lui-même n'a rien à jouer. Sa compagne que j'avais jamais vue avant, mais c'est la même chose. Enfin, il y a aucun enjeu. La seule tension scénaristique, c'est à un moment, est-ce qu'elles vont se mettre ensemble? Ah super, on s'y attendait vraiment pas. Deux amies qui sont lesbiennes. Ah franchement,
c'est même pas vont-elles finir ensemble? Coucher ensemble parce que le réalisateur a vraiment écrit son film avec sa bite.
Parce que l'autre personnage, son trait de caractère, c'est qu'elle n'a pas couché depuis 5 ans et que elle veut coucher. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je pensais que pas nécessairement le sujet du film, en fait. Ça avait l'air d'être une comédie slash film d'action un peu sympa. Et en fait, ça se concentre sur un vieux mec qui filme des lesbiennes. Très mal, les scènes de sexe sont très très mal tournées. C'est ni drôle ni érotique, on aurait pu penser. Moi, je pense aux scènes de sexe de Sam comme Sylvain qui sont pas du tout lesbiennes mais qui sont vraiment super, et on a quelque chose d'érotique qui se dégage. Mais là, c'est rien, c'est pas drôle, c'est juste vide, et pourtant elles emplissent. C'est le sujet du film, j'ai l'impression, qui délaisse du coup aussi son côté action, parce que la scène d'ouverture, moi, j'ai trouvé pas mal. C'est une scène un peu action où là, ça va très très parodique. On retrouve le style des frères Cohen, que je trouvais pas trop mal réussi. On est beaucoup dans le gore, etc., dans la surprise, mais en fait, après, ça abandonne complètement ça pour suivre juste ces deux personnages-là féminins, et en fait, on sent que le réalisateur n'a rien à nous dire. Et en fait, il est trop... Même, il a envie de prouver quelque chose, que je sais pas, qu'il est queer-friendly, je sais pas, mais en fait, on s'en fiche de ça, on sent qu'il raconte pas son vécu. Non, mais je veux dire, typiquement, un Thelma et Louise, ça a été réalisé par Ridley Scott, qui est... certainement pas une lesbienne, et pourtant ça a plus de ça a plus de sous-texte, et c'est plus intéressant à voir d'un point de vue queer que ce film là qui ne dit rien, en fait. On sent qu'il qui veut apporter son soutien à la communauté, mais il suffit pas d'avoir un soutien. En plus d'avoir un regard vraiment, vraiment malsain, comme
un peu
tu
lubrique,
disais, quoi. Hein. Ouais, super lubrique, et du coup, ça donne un film où, bah, c'est ni fait ni à faire, quoi.
Mais c'est surtout, j'ai peur que les frères Cohen ne savent pas écrire de personnages féminins. J'arrive pas à voir dans leurs films des grands personnages féminins mis en avant. Parce qu'en fait, les deux meilleurs personnages du film, les seuls qui m'ont arraché un sourire, hormis Pedro Pascal au début, ce sont les deux acolytes un peu nuls, des truands et tout ça, qui sont à la recherche.
Ils sont forts pour représenter les truands un peu nuls.
Mais en fait,
hein,
ils sont forts pour représenter des losers, mais des mecs losers. En fait, c'est vraiment, ils ont une catégorie excellente.
Et même
bonne.
Pas dans la comédie, parce qu'on pense à Inside Llewyn Davis, par exemple, qui est pour le coup pas du tout drôle. C'est aussi un mec loser, quoi. Et ça, ils savent très bien le filmer.
C'est
mais
ça,
alors, des meufs sympa ça
non ils sont pas bah même elle pourrait faire c'est pour être des meufs
en soi n'est pas grave mais du coup
non mais du
tu
coup
de le faire
voilà, pas, voilà.
Exactement
c'est mais tu surtout t'as mille et une histoires à raconter sur des mecs losers fais-le tu vois et je pense qu'en plus aujourd'hui tu peux raconter autre chose des mecs losers qui pourraient être hyper intéressants et t'as plein de films qui s'y collent aujourd'hui et ça donne des trucs hyper intéressants je comprends pas et il y a vraiment en fait deux films qui se battent en duel en fait au sein de celui-ci c'est un film d'un côté sur les sentiments qu'ont deux femmes l'une envers l'autre qui aurait pu être un truc hyper sympa mais dans ce cas vous l'excluez vous en faites des vrais personnages caractérisés pas uniquement par leur libido et vous en faites un film en fait de ça ou alors vous faites un film de course-poursuite machin où finalement la relation entre les deux elle sert juste de toile de fond mais faire les deux ainsi en même temps de confronter ces deux mondes là ça a aucun sens et ça fait juste que les scènes sont hyper poussives parce qu'on passe une scène sur l'autre sur quel film je vais aller d'un côté mon film de brigand de l'autre côté mon film sur les gens qui couchent ensemble ça a aucun sens fait de cette écriture-là, hyper ambivalente, hyper ambiguë, et j'avais vraiment l'impression de sauter de deux films en deux films, c'était assez insupportable et assez pénible.
C'est ça, à mi-chemin, entre un mauvais film d'action, mais c'est pas complètement en pastiche non plus, un truc sentimental, mais enfin, regardez une rom-com dans votre vie, c'est ça, en fait, au début, il pastiche un film d'action, c'est sympa, et il y a un petit côté gore qui pour le coup marche, mais le côté gore est là deux minutes dans le film, et on en a pas parlé, et j'aimerais bien le mentionner, il y a des scènes de juste psychédéliques abstraits qui viennent dans le film. On a l'impression qu'ils avaient genre 1h20 de film, il fallait qu'ils rajoutent 15 minutes et ils se sont dit tiens on va prendre les fonds d'écran d'ordinateur qui bougent, vous voyez les trucs quand l'ordinateur est en veille là et que c'est à des images de voilà des trucs
Windows
vraiment psychédéliques mais on dirait les Beatles dans leur meilleure période enfin juste des trucs
ouais, mais...
ça veut rien dire avec des fonds sexuels évidemment parce que le film ne fait que parler de ça mais c'est là où il devient sexiste. Enfin, à un moment, ne caractériser les personnages féminins que en fonction de leur orientation sexuelle, c'est à la fois sexiste et à la fois homophobe, évidemment, parce que les lesbiennes, en fait, enfin bon, bref, il y a même pas besoin d'expliquer ça. C'est gênant, c'est pas drôle. Tout ce qu'ils essaient de faire, du coup, ça tombe. Enfin, ce qu'il essaie de faire, parce que du coup, il est tout seul, ça tombe à l'eau. J'aurais peut-être aimé voir le film que Tricia Cook en aurait fait. Peut-être que elle a un autre aspect, mais comme c'est lui a priori qui réalise tout seul, voilà, ça tombe à l'eau. Et moi, ça me déçoit vraiment beaucoup parce que. C'était un film que j'attendais, un des réalisateurs que j'aime vraiment beaucoup, qui je trouvais très drôle, et moi j'adore les comédies, et là c'est vraiment raté quoi.
Très bien, sur cette note plutôt sans nuance, finalement, on va laisser l'audimat libre de juger s'il veut voir ce film ou pas, et on va passer au dernier film de la sélection.
Et là on va bien se marrer, vraiment,
allez,
grosse
Thaïs,
comédie.
Prends le micro.
Non, je rigole.
Herkes eşittir derler değil mi? Okulda böyle öğrettiler. Aslına bakarsan bu doğru değil Hafız. Bazı insanların daha yüksek rütbeleri vardır.
Et on va conclure avec le premier film de Nehir Tuna, un réalisateur turc qui nous fait suivre la jeunesse adolescente de Ahmet, qui est envoyé dans un pensionnat religieux après que son père se soit converti à l'islam. C'est une histoire qui se passe dans les années 90 sous un régime politique sévère. Je vais pas trop m'étaler, déjà parce que je ne sais pas très bien résumer les films, ensuite parce que c'est un film qui agrège pas mal de textes, donc Costal, j'aimerais bien avoir ton avis.
Du coup, c'est un film qui se base surtout sur l'articulation entre le portrait d'un adolescent qui est un adolescent vraiment... Enfin banal, je veux dire qu'il vit son adolescence, sa puberté. Enfin un film vraiment sur la puberté et sur les affreuses adolescentes comme on dit. et le portrait d'une époque dans les années 90 où on devine qu'il y a vraiment une tension entre des nationalistes qui posent Atatürk en seigneur et des islamistes radicaux dont fait partie du coup le père du jeune protagoniste qui eux sont qui sont en décalage avec la population majoritaire puisqu'on comprend dans le film que la population turque est en très grande majorité opposée aux yurts comme ils les appellent et donc à ces maisons de d'islam radical.
Mais pas
qui
les
sont
pas
pour
les...
la laïcité. Et du coup les
pas
non.
Les yurts les maisons.
Non, les yurts.
Nomades.
Bah du coup c'est le même en fait c'est le même mot mais enfin bref ça vient de, okay. du même truc je crois. Mais bref. Mais du coup il y a ce et donc ce protagoniste, il est pris entre les deux idéologies. Enfin il est un peu pris dans cette bataille idéologique puisque la journée il va à l'école laïque. Et le soir, il est au pensionnat d'islam radical et il est dans un cercle.
T'es en train de résumer à ma place, courant, en fait. Non, mais... J'ai peut-être failli ma mission.
Non, mais après, bon, après, je suis pas sûr d'avoir trompé parce qu'effectivement, on est un petit peu.
On est un peu couchant, les... hein.
10 minutes, quoi. Ouais.
C'est, 96, ils sont bien dans une période de démocratie, c'est bien le CHP, donc le parti d'Atatürk qui est au pouvoir.
Oui, donc c'est une démocratie.
Et à ce moment-là.
Parce que ça a l'air très démocratique. Enfin, très démocratique. Non, pas.
À ce moment-là,
c'est une
démocratie, mais après la Turquie.
Tu veux dire que le régime est sévère. Même si c'est démocratique.
Techniquement, c'est toujours une démocratie, la Turquie aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très parfait, quoi. Bien, oui.
La Russie aussi, si tu veux.
Mais c'est vrai qu'il y a des. Enfin, cette bataille idéologique a des échos évidents avec la situation actuelle, avec le parti d'Erdogan, enfin, même dans beaucoup d'autres pays que la Turquie, finalement. Cette bataille idéologique, elle est toujours à l'œuvre. Mais du coup, c'est un film qui est scindé déjà en deux parties. Donc, il y a une première partie où il partage sa vie entre ce pensionnat et cette école, et qui est très très belle, qui est très bien filmée. Donc déjà, vraiment les plans sont extrêmement bien construits. Genre tu sens au bout de deux minutes que le mec il est pas là pour faire des conneries quoi. Il est là pour faire du cinéma et il fait des plans. Et donc t'es vraiment pris dans le truc. Et il y a un espèce de contraste du coup qui marche pour moi vraiment bien entre la beauté très raffinée, très bien construite des plans dans un noir et blanc qui est très léché avec un travail extraordinaire sur la lumière et un travail vraiment extraordinaire sur les compositions, sur les masses. Des corps des jeunes hommes sur, là, tu l'avais dit hier, les angles. Enfin, vraiment, il y a une construction qui est très complexe et qui est vraiment très kiffante à voir. Et la violence de ce qu'on peut voir parfois dans le film, puisqu'il y a des scènes où, vraiment très violentes, très crues, où on le voit se faire battre par son maître de lecture du Coran, comme on dit. Enfin, voilà.
Un peu kinky.
Ouais. Oui, très sensuel. Mais.
Approprié.
Mais du coup, il y a quelque chose. Esthétiquement, c'est un film qui marche vraiment bien. Enfin, c'est, en tout cas, là, dans la première partie, ça marche vraiment bien, je trouve. J'ai plus des réserves sur vraiment la construction narrative de cette première partie, qui est un peu schématique pour moi, où peut-être on peut voir là les défauts d'un premier film aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Enfin, vu que c'est un premier film. Non, mais je veux dire, c'est pas. Enfin, c'est un peu sage, quoi, on va dire, la construction narrative. Et du coup, t'as l'impression un peu d'un rouage trop bien huilé, quoi. Où il y a un truc qui empêche vraiment le réalisateur d'accéder à l'intensité ou à la fièvre qu'il veut mettre à certaines scènes, parce qu'en fait c'est trop attendu ou c'est trop rythmé parfaitement quoi. T'as un espèce de rythme entre ah on contemple le plan, ah ensuite on est dans l'action, ah on contemple, on est dans l'action, on contemple, et donc il y a un espèce de rythme qui s'installe où ça devient un peu plan-plan vers la fin. Je sais pas ce que t'en penses, Thaïs.
Bah écoute, je suis d'accord sur plusieurs choses. Tu l'as dit, c'est esthétiquement ultra léché, et pour autant je trouve que c'est pas prétentieux parce qu'il y a une vraie composition des plans, il y a une vraie scénographie, il y a une vraie mise à l'image qui est pas, le noir et blanc, je veux dire, le recours au noir et blanc n'est pas prétentieux de ah je filme comme j'aurais pu filmer n'importe quoi et puis je te mets du noir et blanc, ça passe mieux. Non, vraiment il y a un travail avec ça et il y a énormément de lignes dans les plans et enfin moi j'ai été très sensible à ça, notamment dans la première partie, effectivement, puisqu'il y a un passage à la couleur ensuite.
Ah ok, je savais pas. Parce qu'en plus, moi, j'ai regardé les photos du film, qu'effectivement, j'ai trouvé d'une beauté folle. Enfin, pour le coup, je sais pas si vous avez vu les photos. Les photos en elles-mêmes. Non, mais je veux dire, les photos elles-mêmes valent le coup, mais à zéro moment, je me suis dit que ça allait passer en couleur.
Et non seulement l'image n'est pas prétentieuse, en plus, le récit. Je le trouve extrêmement bien articulé et je trouve que dans le texte et dans le scénario, enfin, il y a vraiment les dialogues sont extrêmement bien faits, je trouve, et en plus très bien interprétés. c'est un dialogue du détail, en fait, on s'attarde sur des petites choses qui sont pas forcément très intéressantes, mais à chaque fois, je trouve que ça fonctionne. Effectivement, le montage semble un peu plaqué. Après, puisqu'après ça passe à la couleur, pardon, et ça se défait un peu. On voit que les plans sont plus longs, moins resserrés, l'image est moins resserrée aussi. La caméra passe à l'épaule, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de récit par l'image où en fait la rigidité du montage au début ces plans millimétrés, est-ce que voilà, il n'y a pas un récit par l'image et il n'y a pas une valeur symbolique à ça? Après, est-ce que je trouve ça très réussi? Je ne suis pas sûre. Et puis par ailleurs, je trouve qu'il y a un problème dans la longueur des plans, puisque donc on a l'impression que c'est chronométré et qu'ils prennent toujours le même temps dans le film. Je trouve qu'il y a des scènes qui auraient vraiment gagné à tenir plus. Et on en sort un peu frustré parce que, voilà, c'est un peu inexplicable, mais on voit le plan et il s'arrête trop tôt. Cela dit, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant c'était pas très intéressant. Mais non, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est ce focus sur le jeune adolescent qui, c'est vraiment un sorte de film, roman d'apprentissage, quoi. On se centre sur le jeune qui évolue, on le met dans ce monde et on voit comment il compose avec ça. Mais c'est pas je trouve pas que ce soit un film sur la situation politique en Turquie, en fait, avec sa radicalité, sa verticalité. Effectivement, on le ressent toujours. Et puis il y a cette comparaison intéressante entre la foi religieuse et la foi politique. Qui toutes les deux répriment, réprimandent, etc. À leur manière. Mais pour moi, même s'il y a ce fond-là, c'est quand même un film qui est centré sur le personnage et c'est vraiment un récit de l'intime. Et je ne serais pas surprise d'ailleurs que ce soit en fait très autobiographique, parce qu'il y a vraiment des... Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Costal, mais des petites choses dans le récit qui sont trop précises et trop bien faites pour que...
Il me semble, que j'ai lu que c'était...
Je trouve que c'est pas étonnant parce que ça se ressent. Après, ça peut être un endroit de frustration aussi si vous attendez à avoir une fresque politique de turque. Parce que pour moi, ça ne l'est pas du tout.
Non, mais t'as raison. C'est vrai qu'au début, t'as l'impression... Parce que ça s'ouvre vraiment sur une contextualisation, sur les yourtes et sur le contexte. Donc t'as l'impression qu'il va vraiment beaucoup parler du contexte, c'est un peu le cas en première partie, mais en fait c'est vrai que t'as du mal à vraiment déterminer ce qui se passe. Et c'est probablement aussi parce qu'on n'est pas turc et juste qu'on connaît mal l'histoire turque, et que c'est aussi en vrai assez compliqué d'imaginer qu'il y a 30 ans en Turquie, la religion avait été si détestée par la population, quoi. C'est quand même un peu étonnant. Du coup je pense que ça va pas de soi pour nous. Et peut-être qu'aussi, le fait qu'on comprenne pas, ça a un sens, parce que peut-être que le personnage principal lui-même ne comprend pas totalement ce qui se passe autour de lui, et que du coup, le fait qu'on comprenne pas ce qui se passe autour de lui, ça nous fait entrer en empathie avec lui. Mais du coup, voilà, il y a une espèce de... peut-être pas de frustration, mais de moment où tu as l'impression que le récit est un peu abscon, et tu comprends pas forcément tout.
Ouais, mais pour autant, forcément... vers la fin...
Oui, et par contre, la deuxième partie est totalement différente, parce que pour le coup, là, c'est vraiment un récit d'indépendance presque du personnage principal, qui au départ d'ailleurs était peut-être un peu cliché, enfin qui m'a fait peur en tout cas au tout début.
Ce qui peut être deux choses tout à fait différentes.
Qui paraît un peu appuyé.
Ouais. Moi je trouve que comme
qui se termine, enfin pour le coup le dénouement est assez surprenant et ça se termine bien, le film se termine bien.
Oui, c'est un film. Alors déjà, comme tout bon film, je trouve que c'est... Il confond son récit du particulier avec le récit général. Et ça, je trouve que c'est vraiment une qualité. Donc, ça va frustrer ceux qui s'attendent à un film politique. Mais pour moi, ça ne l'est... Enfin, ça l'est sans l'être. Enfin, ça va de pair. Tout est mélangé.
C'est pas... En général, c'est toujours...
Voilà. Et puis, Et puis tu t'avançais une seconde chose.
La seconde partie, le reste, enfin le truc.
Et puis pour autant, il y a des parties qui sont plus appuyées aussi que d'autres. Je pense notamment vers la fin où il y a ce parallèle pas grossier par ailleurs, mais juste bien mis en avant entre la foi religieuse et la foi politique avec une alternance de scènes. Mais voilà, je vais boucler parce que je pense qu'on est assez d'accord sur ce film. Il y a des défauts. En même temps, moi j'ai passé, pour les moments où j'avais les yeux ouverts, d'excellents moments. Je trouve que c'est un très bon film et je vais suivre ce réalisateur parce que je pense qu'il a
non seulement
des choses à dire et une manière de les dire qui est très singulière, en fait, je trouve. Je trouve qu'il y avait plusieurs éléments. Il y a des moments où on a des incursions surréalistes. Je pense à la scène de l'œil sur la plainte et ensuite l'œil dans le Judas. Enfin, des choses qui, mises ensemble, donnent un mélange assez agréable. Et tu le disais, des surprises de moments où, en fait, on est mis sur une piste pour en être sorti tout de suite après. J'ai trouvé ça très chouette et je veux rester positive, même si effectivement il y avait des faiblesses, mais bon, quel film n'a pas
en tout cas, c'est vrai que,
de faiblesses.
C'est vraiment un film à voir et je pense qu'il y a peu de premiers films qui ont cette qualité d'image, de composition et d'inventivité au niveau des plans, quoi.
Ouais, non mais oui. Et puis encore une fois, je le redis, mais l'image, je l'ai pas trouvée présente. Enfin, je l'ai trouvée expressive et je l'ai trouvée. Penser, et enfin, on sent une patte derrière, quoi. C'est pas uniquement je te mets du noir et blanc,
oui,
uniquement.
Et ça se fait
je...
pas du tout au détriment du fond.
Exactement.
Oui, c'est en lien, j'ai l'impression, oui, de ce que tu dis.
C'est totalement, c'est ça... en lien, et puis, ouais. Mais c'est fait dans une simplicité où c'est. Enfin, on te met pas le symbolique dans la oui, figure, quoi. C'est vraiment. Et puis voilà, ces petits dialogues de l'intime, contrebalance avec cette esthétique léchée. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien fait.
Et c'est aussi un récit, pour le coup, qui, moi j'avais peur au début, pouvait verser dans un côté très manichéen de les bons, les méchants, ouais, quoi. Et pas du tout. Au final, c'est très. Par exemple, le personnage du père, il est quand même très, très bien travaillé parce qu'il est au final assez subtil dans un mélange d'autorité parfois vraiment extrême, mais aussi de complicité avec son fils.
Les couches sont. Chez les personnages. Et puis moi, j'ai trouvé qu'en fait. Pour moi, le centre du film, donc il y avait cette adolescence et il y avait aussi cette relation entre les deux qui, en fait, ouais, qui nous apprend aussi plein de choses sur le contexte social, sur les personnages en soi.
Et il arrive à faire, en vrai, beaucoup, je trouve, avec peu de scènes. Enfin, dans le sens, le père et le fils, on les voit pas énormément ensemble.
Ouais.
Et pourtant, enfin, c'est quand même, ça dit vraiment
quelque
chose.
Oui, mais alors moi,
chose,
je parlais aussi avec le, je parlais
avec
du jeune, de l'ami dans le dortoir.
De son ami, ouais.
Avec, enfin, il crée vraiment une relation, oui, à partir... Là encore, de pas grand chose. Alors, ils passent, ouais, beaucoup de temps à l'écran ensemble, mais en même temps, il se passe pas énormément de choses. Voilà.
Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est quand même un des premiers films à voir cette année. Et les films turcs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense qu'il faut soutenir le cinéma indépendant turc. Et donc, aller voir ce film. En tout cas, c'est tout pour ce soir. Je pense qu'on a assez parlé. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Et au revoir.